dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières et des marchés de matières premières dans le monde de Trump 2.0. Nous en parlons avec Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Grégoire.
Question très ouverte à travers la dimension des matières premières. Il y a la guerre commerciale, il y a la guerre contre la drogue. Je reprends évidemment le récit trumpien. Il y a surtout la guerre des ressources. L'OPA sur le Groenland, sur le Canada, sur les minerais ukrainiens. Je caricature, je grossis le trait. Mais il y a quand même une attention particulière de cette administration sur des enjeux de long terme, d'ailleurs. Il ne faut pas le négliger. Que sont les ressources stratégiques, critiques, de base, pour faire tourner une économie et les industries de demain?
Je me dis que Trump, qui est grand fan de technologie, a peut-être dans une de ses plateformes de musique redécouvert Madonna, qui chantait « We live in a material world » dans les années 80.
Oui,
Et en fait, trêve de plaisanterie, on est rattrapé par la physique et par le fait que en fait, toute activité économique commence par faire un trou dans la terre pour prendre des matériaux et les transformer. Si on part du principe, ce qui n'est pas celui de Trump, hein, on pourra en dire un mot, qu'il faut se passer du pétrole... et quoi qu'il en soit, si on veut faire la transition vers l'intelligence artificielle, la transition digitale, le développement de tout ce qui est data center pour l'IA et toutes ces technologies, on a besoin de métaux et on a besoin de métaux en très grande quantité. On en a évidemment besoin pour la transition énergétique et que Trump veuille exploiter le pétrole jusqu'au bout pour tirer davantage le côté positif que ça a pour l'économie américaine d'avoir une énergie peu chère, n'exclut pas le fait qu'on comprenne qu'à terme, on va devoir se passer...
L'un n'exclut pas l'autre.
Ou d'une autre, des matières premières fossiles. Et donc, il est obligé de prendre en compte cet élément. Et effectivement... Le Groenland, c'est un moyen peut-être de sécuriser un accès à des ressources fossiles, mais aussi des ressources minières. Le traité qu'il souhaite signer avec l'Ukraine en est un autre. Il y a plusieurs éléments qui sont positifs là-dessus. Mais pour moi, ce que ça révèle surtout, c'est le retard des États-Unis sur ce sujet. Les Chinois ont compris ça bien avant tout le monde. Je rappelle, 1992... Deng Xiaoping fait un discours dans lequel il dit « Le Moyen-Orient a le pétrole, nous avons les terres rares. Ouais. » Donc il y a déjà cette conscience. Puis au début des années 2000, il y a l'émergence d'une classe moyenne de 350 millions d'habitants en Chine qui nécessite des routes, des autoroutes, des trains, des immeubles. Et donc une prise de conscience de l'importance des métaux. Ça fait donc plus de 25 ans, 30 ans, que les Chinois sécurisent leurs approvisionnements en métaux en achetant en Amérique du Sud, en Afrique et un peu partout dans le monde, des participations dans des mines. Même les groupes français, Eramet, Christelle Bory, elle expliquait, elle a été attaquée parce qu'elle travaille avec des Chinois en Argentine, mais elle dit, mais personne n'a voulu venir avec moi en Europe. Donc j'ai trouvé des investisseurs chinois qui ont bien voulu venir se joindre à nous, et on a fait ça. Et ils ont compris ça bien avant tout le monde, et ils continuent sur cette lancée. Ils ont mis des restrictions d'exportation sur certains des métaux qui sont indispensables aux technologies de la défense américaine, qui sont indispensables pour les technologies bas carbone, indispensables aussi pour les technologies digitales.
Oui, bien sûr.
Ils ont... En 2024, la Chine a consacré plus de 20 milliards de dollars à des investissements hors de ses frontières dans le secteur minier. La France, qui s'occupe et qui est en avance en Europe sur ces sujets, espère pouvoir mobiliser 2 milliards d'euros à l'échelle de la France. Espérons qu'on arrivera à emmener avec nous d'autres pays européens qui sont un peu plus longs que nous. Nous, on a eu la chance d'avoir Philippe Varin qui a fait un gros rapport sur ce sujet. Mais la guerre des métaux, on est en plein dedans. Et les métaux comme source... comme base de la construction de notre monde moderne, mais de plus en plus les métaux comme source d'énergie, parce qu'encore une fois, on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec un transformateur qu'il faut fabriquer, et il faut des métaux.
Avec l'arrivée de Trump, avec en plus la politique tarifaire, et alors là, le vieux gimmick acier, aluminium, et les 25% de
potentiellement de tarifs, cuivre...
Oui, donc que disent les prix de marché? Enfin, comment les marchés de matières premières réagissent à tout ça aujourd'hui?
Les marchés de matières premières réagissent en se disloquant complètement. C'est vraiment un point qui est important. Pourquoi? Parce que ça crée donc un différentiel de prix des matières premières entre les États-Unis et le reste du monde. Or, sur un certain nombre de métaux, notamment, on a une cotation à Londres et une cotation aux États-Unis. La conséquence de tout ça, c'est qu'avec les craintes de tarifs sur d'autres métaux, comme l'or, eh bien, les Américains sont en train de rapatrier énormément de stock dans leur pays. C'est pareil sur le cuivre. Pour l'instant, il n'y a pas de taxe sur le cuivre qui est prévue, mais Donald Trump en a parlé, a dit que, enfin, qu'il soit en place, mais il a dit que c'était prévu. On pensait que ça prendrait du temps. Il a dit il y a quelques jours que ça serait pour dans les semaines qui viennent. Et donc, bah, il faut tout de suite repricer le prix du cuivre aux États-Unis. Et donc, vous avez un différentiel de prix entre le cuivre à Londres et le cuivre aux États-Unis qui est en train de se créer et qui pourrait atteindre 25%. Parce que c'est le montant des taxes. Sur l'or, il y a donc ces mouvements pour anticiper une éventuelle mise de taxe sur l'or qui fait que
les banques à Londres sont débordées aujourd'hui.
Il y a 4 à 8 semaines d'attente.
C'est ça, voilà. J'ai recherché le chiffre. C'est 2 jours. En 2 jours, on retirait son lingot
de London Stock Exchange. De 4 euros, je crois, pour le kilo d'or. Aujourd'hui, on est à 100 euros. Donc, il y a des frais de livraison qui ont explosé. Il y a des coffres qui sont en train de se vider d'un côté de l'Atlantique et de se remplir de l'autre. Et la question, c'est comment ces stocks vont évoluer après. Parce que la logique voudrait que tant que les prix n'ont pas monté de 25% dans le reste du monde, eh bien, ces stocks, ils restent aux États-Unis. Donc, ça fait de la marchandise en moins qui est disponible. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ça va aussi entraîner des redistributions. Le Canada est en train de réfléchir à envoyer son acier, son aluminium ailleurs. Pour éviter de payer ses taxes. Donc le marché est aujourd'hui un peu
perturbé.
Stupéfait.
Ouais.
C'est la stratégie de la stupéfaction de Trump.
Ouais.
Et essaye d'absorber toutes ces informations. Donc, par exemple, sur le cuivre, on a une prise en compte d'un écart entre le prix à Londres et le prix aux États-Unis qui s'est écarté, qui n'est pas encore à 25%, mais qui price grosso modo 10% à un horizon 4 mois. À la fin de l'année, c'est un petit peu plus, mais on n'intègre pas encore les 25%, donc c'est peut-être pas fini.
Effectivement, sorti de l'idée de la mondialisation heureuse, se dire qu'on va avoir des prix potentiellement différents de 25% entre le même minerai, le même métal, cuivre, sur le continent européen à Londres et sur le continent américain à Chicago,
mais on a un
délirant,
problème qui est plus grand que ça, Grégoire. C'est que la stratégie de Trump, c'est de réindustrialiser les États-Unis, donc de redévelopper une exploitation minière, une exploitation de raffinage. Je vais prendre un exemple. Ils ont des mines de palladium, ils sont en train de redévelopper une mine de terres rares. Le palladium, aujourd'hui, qui est exploité aux États-Unis, il est envoyé à l'étranger pour être raffiné. C'est très bien de vouloir reconstruire une industrie, mais une mine en moyenne, ça met 17 ans pour ouvrir. Une mine de cuivre, une mine de nickel, c'est un peu moins.
D'accord.
Une mine de lithium, c'est beaucoup moins, c'est 5 ans. Mais une mine de cuivre, une mine de nickel, c'est 15 à 20 ans en moyenne. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. S'il arrive à développer son contrat avec l'Ukraine, le temps de l'exploration, plus de l'obtention des permis, plus de la construction des infrastructures, plus de la construction de la mine, c'est 17 ans. Donc tout ça, c'est des stratégies à long terme. Trump, il est là 4 ans. Pour l'instant.
Ouais.
Il est là 4 ans pour l'instant. Donc la question, c'est, on est en train de prendre des paris à très long terme, de mettre en place des contrats à très long terme. Alors c'est bien de gouverner, c'est prévoir. Hein. Mais en attendant, pour les 4 prochaines années, on aura des prix des métaux qui seront 25% plus chers pour les métaux qui sont soumis à des taxes et pas de possibilité de réagir très rapidement. Alors, il y a quelques exceptions. Il y a une mine qui se développe en Arizona en ce moment, qu'Ivano Electric développe, qui a été fait de main de maître par Robert Friedland et qui va mettre, a priori, 5 ans à arriver sur le marché. Mais c'est très rare.
Il n'y a pas de flexibilité à très court terme.
Et le temps minier est un temps long.
Ah bah oui, mais
et ça, on ne peut pas y couper.
Ouais. Bon, dans ce contexte, pourquoi est-ce que le pétrole a perdu 15% là depuis janvier, Benjamin ?
Il a perdu 15% pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on commence à avoir des inquiétudes sur la santé économique, première chose. Deuxième chose, vous avez un certain nombre de pays qui avaient baissé volontairement leur production et qui commencent à trouver le temps long. Les pays de l'OPEP et de l'OPEP+, on a certains pays qui commencent à ne plus vraiment jouer le jeu, comme le Kazakhstan, et d'autres pays ont commencé à annoncer, notamment l'Arabie Saoudite, qu'elle allait remettre progressivement la production qu'elle avait volontairement coupée sur le marché. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est un moyen, enfin, c'est une concession faite à Trump ?
Oui, parce que ça va dans son sens aujourd'hui.
Qu'il avait demandé, quand il était au forum de Davos, je vous rappelle, en vidéo, il avait dit « j'aimerais que l'Arabie Saoudite nous aide à faire baisser le prix du pétrole ». Est-ce que c'est une concession ? Parce que peut-être aussi, on connaît maintenant un peu Trump, parce qu'il n'y a pas eu des menaces sur la sécurité, la garantie de sécurité à l'Arabie Saoudite.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer derrière.
Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour l'Arabie Saoudite de s'assurer que le prix du pétrole reste pas trop haut pour éviter que leurs concurrents dans les pétroles de schiste aux États-Unis aient trop de facilité à augmenter leur production, puisque Trump va tout faire pour mettre en place des mesures fiscales, par exemple, pour les aider, pour abaisser le coût de production. Donc c'est peut-être aussi... Il y a un jeu qui se joue, mais clairement... La baisse du prix du pétrole s'explique par deux choses. Les craintes de ralentissement économique d'une part, donc côté demande, baisse de la demande, et côté offre, et ben le retour d'une quantité de pétrole qui avait été retirée du marché depuis plusieurs mois.
Un dernier mot, est-ce qu'avec Trump 2.0, on va retrouver des perturbations sur les matières premières agricoles ? Parce que c'est des sujets de rétorsion. Première guerre commerciale, la Chine avait répondu fortement sur les exportations américaines, enfin les importations chinoises de soja américain, etc., etc.
Donald Trump a annoncé cet après-midi des taxes de 25% sur le maïs en provenance d'Europe. Ouais. Donc il y aura des perturbations un peu partout. Il y a une volonté de Trump de provoquer une espèce de stupeur pour arriver à rentrer dans une négociation pour essayer de rétablir une situation qu'il juge déséquilibrée. Il y a toujours cette histoire derrière de l'accord de Mar-a-Lago, comme certains l'appellent, qui consisterait à essayer de trouver un moyen de faire baisser le dollar, baisser les taux aux États-Unis pour rendre de la compétitivité et de rembourser en fait ses créanciers avec de la monnaie de singe grâce à l'inflation. Ça va pas être simple. La voie sur laquelle il s'engage est une voie qui économiquement fait pas forcément beaucoup de sens. Il va falloir voir aussi comment la population va réagir si l'inflation commence à monter et que, comme Trump a pu le laisser entendre sans le confirmer, on devait entrer dans une phase un peu récessive dans l'année 2025 et potentiellement début 2026.
En attendant, ces gains, c'est pour l'instant de voir le pétrole baisser, les taux longs se détendre un petit peu et le dollar lui aussi se détendre un petit peu. Voilà.
Tout à fait. Et ça, pour l'instant, ça marche bien.
Et pour l'instant, voilà, on trouve un équilibre autour de ça en attendant de voir la suite. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management, qui est avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.